La foi affirme que tout homme a besoin d'être sauvé et que Dieu nous offre le salut gratuitement par la mort de son Fils Jésus. C'est pour ça que nous disons dans le Credo, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Mais au fond, avons-nous vraiment le besoin d'être sauvés? Et si oui, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Est-ce que nous percevons un besoin d'être sauvés? Les personnes avec qui nous vivons au quotidien manifestent-elles explicitement leur besoin d'être sauvées? Et si oui, sur quoi cette attente de salut se porte-t-elle? À propos du salut, on peut aussi se poser d'autres questions. Si Dieu a donné le salut à l'humanité par la mort déjà accomplie de Jésus, pourquoi le monde continue-t-il d'être ravagé par la guerre, par les maladies, par la mort? Comment peut-on affirmer que le salut est accompli alors que notre expérience au quotidien est tellement éloignée de l'idée même que le monde est déjà sauvé? Voilà les questions qui se posent à nous quand nous commençons à réfléchir à la question du salut. Voilà les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui et je vous propose trois étapes. D'abord, je vais vous montrer que l'idée que les hommes ont besoin d'être sauvés est globalement refusée dans la culture contemporaine. Deuxième point, pour répondre à cet état de fait, je vais présenter l'événement du péché des origines qui est raconté dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Qu'est-ce que ce récit nous dit et comment pouvons-nous articuler ce récit avec notre expérience présente de la vie? Et puis dans un troisième point, je vais parler de la tentation. La tentation est une expérience que nous vivons tous au quotidien. Elle est un savant mélange entre nos limites et l'action du diable, qui s'appelle aussi, à juste titre, le tentateur. Ressentons-nous le besoin d'être sauvés? Les personnes que nous connaissons expriment-elles ce besoin? La réponse à ces questions, de manière générale, c'est non. Le besoin d'être sauvé n'est pas du tout une idée communément admise aujourd'hui. C'est même une idée refusée ou combattue. Et je voudrais le montrer à deux niveaux. D'abord à un niveau, on va dire, café du commerce, à un niveau inconscient collectif, et puis ensuite à un niveau philosophique, au niveau des idées qui soutiennent notre organisation sociale telle que nous la vivons maintenant. Dans la plupart des rencontres que j'ai avec les gens, un malentendu qui revient souvent, c'est que personne ne ressent le besoin d'être sauvé. Les gens vont bien, ils ont construit leur vie, leur bonhomme de chemin, dans une société qu'ils perçoivent comme complexe, mais globalement ils disent d'eux-mêmes « ça va bien, l'harmonie règne, je n'ai pas besoin d'être sauvé » ou « je ne vois pas de quoi j'ai besoin d'être sauvé ». Et même si des épreuves font partie de cette harmonie, de cet équilibre, les personnes se disent « au fond, qu'est-ce que Dieu pourrait y faire ? Comment son salut pourrait-il être efficace pour les problèmes que je rencontre ?» Je note donc deux phénomènes. D'abord, une sorte de satisfaction généralisée. Nous pensons que nous sommes de bonnes personnes. Nous ne ressentons pas dans nos tripes un besoin de salut. Nous ne voyons pas ce qui en nous aurait besoin d'être sauvé. À ce niveau, j'aime bien rappeler que notre bonté de bonne personne est d'abord la conséquence d'un contexte vraiment favorable. Nous sommes de bonnes personnes parce que, de manière générale, nous n'avons pas de problème au quotidien pour manger, pour trouver de l'eau potable, pour avoir un toit et un peu de chaleur. Enlève tout ça. Imagine que tu es dans un contexte d'épreuve où répondre à tes besoins vitaux n'est pas quelque chose d'assuré. Imagine cette situation et tu verras alors que rester une bonne personne n'est pas une chose aisée, n'est pas une chose assurée. Voilà donc la première chose que je voulais dire. Nous pensons être bons de nous-mêmes alors que notre bonté est surtout la conséquence du contexte globalement favorable dans lequel la société occidentale se trouve. Le deuxième élément que je note dans nos mentalités contemporaines, c'est une sorte de stoïcisme en face de la fatalité. Puisque tu ne peux rien pour changer ta vie, pour changer le monde, eh bien, tu décides de changer la manière de percevoir les choses. C'est comme ça. Et puis, tant pis. Faisons avec. Soyons heureux malgré tout. Et puis, si le bonheur n'est pas accessible, eh bien, dans ma vie, ce sera au moins une sorte de non-souffrance intérieure, une apatheia, comme disaient les philosophes grecs. Finalement, cette acceptation de la fatalité reflète une posture blasée en face de la réalité. Grandir, devenir responsable, ce serait en quelque sorte quitter son idéalisme post-adolescent sur l'humanité, sur la vie, pour se contenter de ce qu'on a et puis se détacher des manques et des souffrances. Ça, c'était pour le niveau du café du commerce, un peu tout ce qu'on dit au quotidien. Au niveau de la réflexion philosophique, cet état de fait de notre monde contemporain s'appuie, entre autres, sur ce que Rousseau appelait le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage, c'est assez simple. L'homme est bon en profondeur, l'homme est bon fondamentalement. Et les dissonances qu'il ressent, ce qui le pousse à agir mal, à faire du mal aux autres, à se faire du mal, bah tout cela, en fait, c'est la conséquence de la société à laquelle l'homme appartient. Le mal est principalement un phénomène social, une construction sociale. C'est la culture, progressivement, qui fait que les hommes qui étaient bons dans leur état de nature deviennent mauvais dans leur état de culture. On reconnaît ici une des racines idéologiques qui irrigue, qui alimente la question du wokisme. La plupart des souffrances et des discriminations, selon le wokisme, sont liées à des constructions sociales et culturelles, mais en base, il n'y avait pas de discrimination sociale. Pour sûr, il n'y aurait pas de souffrance, il n'y aurait pas de difficulté sans la couche de la société. Les hommes sans la culture seraient meilleurs, et donc il faut déconstruire la culture. Le mythe du bon sauvage est aussi au fondement de tout un pan de notre société contemporaine qui est le développement personnel. Vous connaissez certainement le livre le plus connu, « Les quatre accords Toltec » de Don Ruiz. C'est un livre hyper vendu sur la question du développement personnel. Et avant de donner des conseils pratiques très instructifs pour conduire sa vie, ses interactions, le livre commence par une charge phénoménale contre toutes les instances de transmission, toutes les réalités qui font l'humanité, les écoles, les familles, l'église. En fait, le message de l'auteur est simple, il n'y a pas de mal dans l'homme, parce que l'homme est bon à sa naissance, mais toutes les dissonances dans son cœur, tout ce qui va mal, toutes ses souffrances, toutes ses difficultés relationnelles, sociales, sont la conséquence de ce que la culture et l'éducation ont transmis. Mais à la naissance, tous les êtres humains sont vierges de toute corruption. Et donc, il suffirait de retourner, de trouver le chemin du retour à cet état de bonté originelle pour alors construire un monde parfait, un monde basé uniquement sur l'amour inconditionnel et qui ne comprend en rien la jalousie et la maîtrise des peuples par la culpabilité et l'auto-jugement. Donc, la difficulté de l'homme contemporain à se reconnaître comme ayant besoin d'un salut, nous voyons avec ces deux exemples ces deux manières de voir qu'elle a quelque chose à voir avec sa difficulté à nommer qu'en lui existe un problème à l'origine, un problème avant même que la société et ses structures, en partie viciées, c'est certain, aient agi sur lui. Qu'est-ce que le péché originel, tel que le présente le chapitre 3 du livre de la Genèse? Qu'est-ce que ce récit nous enseigne sur le cœur de l'homme? Pourquoi et comment le cœur de tout homme, de toute femme, est-il blessé par le mal avant même que la société agisse sur lui? Ces questions sont essentielles, car la Bible, avec le récit de la Genèse, révèle que le mal, dans l'expérience de l'homme, c'est toujours d'abord une expérience intérieure, une expérience du mal en moi. Avant d'être une expérience extérieure, le mal que je fais à l'extérieur ou le mal que de l'extérieur je subis, le mal en moi. Regardons du coup le récit de plus près. Vous connaissez l'histoire, elle est partout dans l'art et dans la littérature. Tout allait bien pour Adam et Ève, et puis tout d'un coup, le serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait, arrive et sème le doute dans le cœur d'Ève. Le serpent s'attaque à Dieu. Il met en doute sa bonté, sa bonne réputation. Et la femme cherche à défendre Dieu, mais elle s'en mêle les pinceaux et puis voilà qu'Adam et Ève entrent dans une nouvelle manière d'interpréter le lien à Dieu. Manger la pomme, c'est conclure que Dieu n'est pas bon, que Dieu est un concurrent. Ce récit que vous pouvez aller relire dans vos Bibles nous donne trois informations fondamentales, trois informations sur l'humanité. Première information, nous apprenons que le mal entre dans l'expérience des hommes à cause de l'intervention d'une autre créature, ici symbolisée par le serpent. Ce serpent, en fait, est une trace dans le récit biblique des grandes créatures mythiques et mystérieuses de l'antique Babylone, qui était le contexte culturel de ce récit de la Genèse. Parce que le mal, c'est plus qu'une simple bestiole qui rampe, évidemment. C'est une réalité mystérieuse et ambiguë. Le récit nous dit donc que cette chose mystérieuse et ambiguë qui semble faire capoter le plan de Dieu, c'est une créature de Dieu, qui, comme créature de Dieu, à l'origine était forcément bonne, parce que Dieu ne peut faire que le bien, une créature bonne qui a perdu sa bonté librement en choisissant de s'opposer à Dieu. Cette créature, on l'appelle le diable, le diviseur, le tentateur. Si tu veux en savoir plus sur qui est le diable, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur les anges et les démons. Donc, la première information du récit, c'est que le mal est provoqué par une créature pervertie. Et donc, deux choses, Dieu est innocent du mal et l'humanité est innocente du mal. Dieu n'a pas inventé le mal. Il n'y a pas un dieu du mal en face du dieu du bien. Le manichéisme, ça n'existe pas. Le manichéisme, c'est seulement pour les films américains. Et Dieu innocent du mal, c'est aussi l'homme qui, innocent du mal, n'a donc pas en lui le mal dès l'origine. Deuxième information sur l'humanité dans ce récit. Nous comprenons de manière très claire qu'on ne peut pas lutter contre le mal à partir du bien. Je m'explique. Ève se fait avoir par le serpent parce qu'elle cherche à lui répondre, à répondre à ses objections, comme si le mal était logique, comme si un mensonge était annulable par la raison, comme si on pouvait dialoguer avec le mal. Vous voyez, c'est pour ça que dans le Notre Père, on dit à la fin, ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà, la tentation, tu la connais, elle existe. Mais si tu commences à entrer dedans, si tu commences à dialoguer avec elle, en fait, tu fais une faute de logique. On ne peut pas lutter contre l'illogique du mal par la logique du bien. On ne peut pas lutter contre l'opposition à Dieu avec nos seules forces. On ne peut pas lutter contre le mensonge en lui opposant la vérité. Le mal, en fait, c'est comme un trou noir. Il aspire tout, même la lumière. Le mal, si on s'en approche, on se fait détruire. La troisième information vient des paroles que Dieu adresse à Adam et Ève à la suite de leur faute. On a souvent dit qu'il s'agit d'une punition, d'un châtiment. Je crois plutôt que les mots de Dieu nous donnent accès, nous révèlent la réalité de ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont cru aux paroles du serpent et se sont détournés de Dieu. Ce qui s'est passé, en fait, c'est l'entrée dans l'homme d'un principe de destruction. Dieu dit trois choses à Adam et Ève. Parce que tu as cru le serpent plus que moi et plus que la confiance que j'ai en toi, alors trois choses changeront pour vous, pour tous les hommes. Premièrement, le rapport à la vie, à l'enfantement, devient une souffrance, une énigme insoluble. Deuxièmement, le rapport entre les sexes devient une souffrance, un lieu de domination et de suspicion mutuelle. Troisièmement, le rapport au travail devient une souffrance, un lieu d'absurdité, de fatigue, de résistance. Ce qui est abîmé par l'acte d'Adam et Ève, ce n'est pas simplement leur rapport individuel à Dieu. C'est tout ce qui fait l'humanité dans son essence. Et pas simplement leur humanité, mais toute l'humanité qui va sortir d'eux. Cette chute originelle, en fait, toute l'humanité en porte les conséquences. En théologie, on dit que le péché originel est un péché contracté et non pas un péché personnel. On porte ce péché par naissance. On le porte dans notre dans notre ADN spirituel, dans notre ADN le plus profond. Et on en subit les conséquences alors même qu'on n'a pas encore commis de péché concret, personnel, actuel, pas de péché dans la vraie vie, dans nos propres actes mauvais. Donc voilà, bien sûr, quand nous naissons dans un monde qui est marqué par le mal, et cela nous influence. Mais avec le récit du péché originel, nous apprenons quelque chose d'autre. Il y a un autre ingrédient, toi, moi, chacun des êtres humains, depuis le début, depuis notre conception, dans toute l'histoire, nous portons les séquelles d'une défiance envers Dieu. Cette rupture de communion avec Dieu, nous la subissons à cause de l'action du diable et elle a des effets dans notre vie. Elle désarticule nos facultés, elle complique notre rapport à Dieu, aux autres, à nous-mêmes et à la création. Si notre être est marqué par le péché originel, on peut se demander comment cette blessure influence notre capacité à faire le bien. Comment se passe dans nos vies le processus de la tentation? Et puis, comment le tentateur, le diable, agit-il dans nos tentations? À la racine, à cause du péché originel, nous avons du mal à organiser l'équilibre entre nos désirs, nos pulsions, nos besoins primordiaux, puis notre intelligence, notre volonté. La part irrationnelle en nous a du mal à se laisser guider par la part rationnelle. Et puis la part rationnelle a du mal à reconnaître les informations vitales et essentielles que nous donne à tous les instants la part irrationnelle en nous. Bref, les différentes facultés en nous, individuellement, elles fonctionnent bien. Nous sommes de belles et de bonnes créatures, bien faites par un créateur qui est bon. Mais en nous, ces différentes facultés ont du mal à trouver leur harmonie, elles ont du mal à fonctionner ensemble. Ces conséquences du péché originel, la théologie les appelle de manière générale la concupiscence. Rien à voir avec la concupiscence du sexe, la concupiscence de manière générale. Le résultat de tout cela, c'est que sans l'aide de Dieu, il nous est impossible d'agir de manière articulée. Donc, dans toute bonne action, qu'elle soit d'un chrétien ou pas, il y a une grâce de Dieu, un soutien à notre vie. Puisque nous recevons un être où les facultés ont du mal à bien s'articuler entre elles, nous comprenons mieux notre besoin d'être sauvés. Nous pouvons comprendre aussi comment se passe la tentation et quelle est l'action du démon, du tentateur, dans nos vies. Maintenant que nous comprenons mieux que les différentes parties de notre être, qui sont toutes bonnes, sont malheureusement désarticulées, nous pouvons comprendre comment le diable agit la plupart du temps avec nous. La tentation est un processus intérieur, nous le connaissons bien. Dans un contexte donné, à un moment donné, que ce contexte soit nouveau ou déjà connu parce que nous l'avons déjà rencontré, que c'est une routine, tout d'un coup, une idée nous passe par la tête, une pensée nous traverse l'esprit. Cette pensée s'exprime toujours comme une résultante de ce qui se passe dans le corps et de ce qui se passe dans l'esprit. Deux exemples. Vous pouvez avoir tout à coup l'idée d'être médisant sur un collègue que vous n'aimez pas, et vous vous mettez à déblatérer sur lui, dans son dos, avec quelqu'un d'autre. Là, vous voyez que la pensée de la tentation, elle est plutôt la résultante de ce qui vous passe par la tête. Mais vous pouvez aussi avoir tout d'un coup, mettons, vous marchez dans la rue, une pensée sexuelle sur quelqu'un, parce que vous avez senti un parfum qui vous plaît, par exemple, et cette sensation olfactive active en vous un processus hormonal, là, dans le cas présent, c'est la production de la kisspeptine. Et puis c'est parti, vous vous retrouvez avec une pensée obsédante, quelque chose qui prend tout votre esprit, toute votre capacité de focalisation, toute votre capacité de réflexion. Là, vous voyez que la pensée est plutôt la résultante de ce qui s'est passé dans votre corps, presque à votre insu. Donc, la tentation, c'est une idée qui surgit dans la résultante compliquée des forces de l'esprit et celle du corps. C'est une idée qui est là, qui prend de la place, et que vous confrontez, avec votre volonté, votre intelligence, au système de valeurs, au bien, au mal. C'est une idée qui appelle une décision, un choix. Cette idée, c'est une énergie en vous, c'est un peu comme une vague quand on est au bord de la mer. Et la question qui se pose à un surfeur devant une vague, c'est est-ce que je laisse passer cette vague ou est-ce que je la surfe? Et donc la question pour nous, c'est, avec ce bazar intérieur, cette idée, est-ce que j'attends que ce bazar s'estompe ou est-ce que je plonge dedans? Ce bazar intérieur, cette idée, cette tension entre le système de valeurs, le bien, le mal, et puis l'équilibre entre vos différentes facultés, sensations, émotions, idées, choix, tout cela, en fait, toute cette désarticulation est une conséquence du péché des origines. Vous vous en souvenez? Cette désarticulation des facultés de l'être humain. L'action du tentateur se situe précisément dans le processus de la tentation. D'abord, indirectement, toute tentation est toujours la conséquence de l'action du diable dans l'histoire, puisque toute tentation, en fait, peut être reliée au moment où Adam et Ève ont été piégés. Mais le tentateur peut aussi directement nous tenter, et cela de deux manières. Première manière, le diable appuie sur une tentation qui préexiste à son action. Quand une tentation arrive, quand nous nous retrouvons en tension intérieure entre notre système de valeurs et une pensée qui se produit dans un contexte donné, dans notre corps, dans notre esprit, alors le tentateur, bien souvent, appuie sur cette tension. C'est ce qui arrive à Jésus dans les 40 jours qu'il passe au désert après son baptême. Le texte nous dit qu'après 40 jours, et c'est pas très étonnant, Jésus eut faim. Donc voilà la situation, le contexte, la tentation qui est naturelle. Il a faim, c'est-à-dire que tout le corps de Jésus lui envoie des messages et sature son esprit. J'ai faim, je veux manger. Et si je mange pas maintenant, c'est dangereux pour moi, donc je dois manger. Ça, c'est la tension. Et là, le démon arrive et appuie sur cette tension intérieure de Jésus pour lui glisser une idée perverse. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Mais Jésus résiste en se concentrant sur la parole de Dieu et la tentation passe comme les vagues de la mer passent. Et donc, nous apprenons deux choses. Premièrement, le diable sait ce qui se passe au fond de nous et c'est dans son pouvoir d'appuyer sur les tensions, sur les problèmes qui existent déjà. Et puis deuxièmement, nous apprenons que attendre et lire la parole de Dieu, c'est une bonne manière de résister. Deuxième manière pour le diable d'agir directement avec nos tentations, c'est quand le tentateur crée directement une tentation. C'est ce qui arrive après la première tentation de Jésus. Vous savez, cette tentation qui est arrivée à cause de la tension intérieure liée à la faim. Eh bien, deux autres tentations sont alors directement suggérées par le diable. Première tentation, l'adorer, lui, le diable, contre tout son pouvoir sur la terre. Deuxième tentation, celle de tenter Dieu, que Jésus se suicide, saute du haut du temple pour susciter une réponse de Dieu. Parfois, le diable agit directement sur nous en nous suggérant des idées alors que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème en soi, de tension liée soit à notre esprit, soit à notre corps. C'est possible parce que les anges et les démons ont accès à tout ce qui se passe dans notre imagination. Ils n'ont pas accès à notre cœur profond, à notre liberté, à notre capacité de dire oui ou non. Ça, c'est vraiment notre sanctuaire le plus profond. Mais ils ont accès à ce qui se passe dans notre imagination, qui est un lieu de rencontre, une espèce de carrefour où il y a nos sensations, nos émotions, notre mémoire. De ce fait, nous apprenons deux choses. D'abord, bah oui, le diable peut nous tenter directement. Mais le plus souvent, il le fait quand il a déjà épuisé les tentations ordinaires, celles où il ne fait qu'appuyer sur des lieux déjà fragiles dans notre vie. Mais nous apprenons aussi de Jésus que résister aux démons, ce n'est pas lui parler, ce n'est pas lui répondre directement, contrairement à Ève, mais c'est parler à Dieu, se concentrer sur sa parole, qui est un roc, vraiment une force. Je crois que le plus grand enseignement dans la vie courante sur la tactique du diable, c'est de comprendre qu'il nous attrape toujours avec cette foutue illusion. On a l'impression qu'on ne se sortira du problème, de la tentation, qu'en agissant selon la pensée qui nous obsède, la pensée de la tentation. On pense que le passage à l'acte est la seule issue. Alors qu'en réalité, les tentations sont des vagues temporelles qui passent. Il n'y a jamais qu'une seule option. Le surfeur n'est jamais forcé de surfer la vague. Il peut toujours choisir de la laisser passer. Donc la question du temps est hyper importante. Le deuxième enseignement, c'est qu'il ne faut jamais s'adresser directement à la tentation ou au tentateur. Il s'agit de faire diversion. Jésus, avec son humanité parfaite, le fait en citant la parole de Dieu et en restant uni à son Père. Pour nous, puisqu'on est un peu moins parfait, ça peut être aussi de changer d'activité, de passer un coup de fil à un ami, de poser un acte de charité, de sortir faire un pâté de maison. Voilà, puis une fois qu'on a dit à son corps, à son esprit qu'on était passé à autre chose, oui, là, tu peux prier. Tu peux demander à Dieu, à ton ange gardien, la paix et la protection. Aujourd'hui, dans ce catéchisme de Padre Bloch, je vous ai parlé de trois choses pour approfondir le fait que Dieu s'est incarné pour nous les hommes et pour nous sauver. Je vous ai expliqué d'abord que le besoin du salut n'était pas une réalité communément admise. Et que pour sentir ce besoin, une bonne manière, c'est de choisir une vie moins confortable. Je vous ai parlé de ce que le récit du péché des origines nous apprend. Dans la Genèse, nous apprenons que des créatures de Dieu se sont retournées contre Dieu et elles se sont mises à tenter les hommes. Nous avons appris aussi qu'on ne peut pas lutter seul contre le mal, qui est un trou noir qui aspire même la lumière. Et nous savons aussi que le péché des origines a des conséquences dans l'articulation des facultés de notre vie. Et puis à la fin, je vous ai expliqué comment se passe la tentation, quelle est la part d'action du tentateur et comment résister au mieux à la tentation. Alors, je vous souhaite vraiment un bon combat spirituel et puis restez à l'écoute du Seigneur et puis des prochaines vidéos qui vous expliqueront comment Dieu, qui nous a donné son salut, l'a fait en nous donnant Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. À bientôt.